Il y a des moments avec l'analyse, justement, si on arrive à s'apercevoir qu'on peut lire et faire des erreurs de lecture, eh bien, on arrive quand même à se soigner, à se traiter. Bon. Donc, tout ce paquet de dessins, je les garde précieusement, parce que je ne suis pas sûr que même dans ma façon de me bourrer avec mon désir à la moelle de trouver des noms alternés, une réponse du même coup avec, à propos de la non-alternance, un truc qu'on n'aurait jamais pensé, qu'on n'aurait jamais vu, c'est infantable. Bon, chacun a l'érotisme qu'il veut. Hein. Je vous laisse. Je ne vais pas vous moquer de moi. Vous pouvez simplement dire que c'est bizarre. Mais je suis un peu déformé. Quoi. Mais comme je vous ai dit, la sexualité, c'est la déformation, c'est la déviation. Pas plus dévié, je ne suis pas plus déviant que les autres en ayant un fantasme sexuel qui voudrait que pour rendre compte de la relation de ces deux-là avec la série des autres, je voulais passer par celui-là, parce que celui-là, je sais qu'il vient d'un qui est ici à côté, et puis qu'il y en a un autre qui est là, et que tout ça a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'importance. Et c'est justement en étudiant tout cela que je me suis aperçu la semaine dernière que j'étais con. Je me suis dit, mais pourquoi je ne fais pas la même chose que je sais faire sur les petits, sur le gros? C'est une histoire où vient jouer le quart de tour et puis le mouvement nœud. Donc il faut que je vous explique ça lentement. Alors, pour l'instant donc, il y a celui-là et celui-là, je vous ai fait un dessin. Vous avez qu'à décrire de côté, vous allez voir qu'il y a aussi encore quelque chose d'intéressant à sortir de ça. Vous verrez que quand vous composez celui-là avec celui-là, je peux vous l'envoyer, je crois que je vais dessiner dans la machine, sinon je le ferai, parce que de toute façon ça reste à l'ordre du jour. Le rapport entre ces deux-là, ça donne que si je compose ces deux-là, ben celui-là il absorbe celui-là. Celui-là il mange celui-là, comme l'enlacement défait le borroméen, celui-là il défait celui-là. Mais il reste celui-là, il l'absorbe, c'est un élément absorbant. La notion de l'élément absorbant, c'est le contraire d'un élément neutre. Hein. Et un élément neutre, c'est quand vous avez X, vous ajoutez E et ça fait X. Mais un élément absorbant, c'est quand vous avez A et que vous ajoutez X et ça fait A. Alors vous pouvez dire que X, il est neutre pour A, ou que X ici, il est absorbant pour E. Ben vous, pourquoi vous ne pouvez pas dire ça? Ben c'est une inversion des compteurs. Parce que l'élément, il est neutre seulement si pour quel que soit X, il existe E qui est comme ça. Et l'élément A absorbant, il est absorbant seulement si c'est pour quel que soit X, il existe A qui est comme ça. Alors maintenant, vous voyez bien que dans l'éventuel des deux quanteurs, ils ne sont pas symétriques, puisqu'il y en a un, c'est l'universel, l'autre, c'est l'existentiel. Donc la quantification implicite devant ces formules fait la différence entre un élément neutre et un élément absorbant. Un élément neutre n'est pas un élément absorbé par tous les éléments. On pourrait dire ça, on pourrait dire un élément neutre est un élément absorbé par tous les éléments, mais il n'est pas élément absorbant. Parce qu'un élément absorbant, il doit absorber tout, n'importe quoi. D'ailleurs, le neutre, lui, hein, un élément qui est absorbé n'est pas neutre, parce que le neutre, lui, doit être neutre pour tous les éléments, pas pour un seul, l'absorbant. Bon, donc c'est un jeu de quantification. Mais vous voyez qu'en mathématiques, en algèbre, les mathématiciens, en général, ils n'en parlent pas. Vous avez vu, j'ai commencé à vous écrire le truc sans écrire ça. Vous voyez, je les ai écrits. Quand on fait de l'algèbre, c'est comme dans Frege, voyez-vous. Il y a l'arithmétique, l'algèbre, et puis il y a la logique qui est dans la marge. Ben, on fait tout le temps ça quand on calcule. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire?
Quand on écrit avec x plus 2, on sait bien que c'est x à la variable et a à la constante.
Oui, non, on sait bien, mais on peut dire le contraire. Ouais. Moi, je vous dis, regardez, vous avez un exercice de seconde en classe qui est très joli, qui consiste, hein, je crois que je l'ai déjà écrit.
Oui, oui, oui.
Hein, x2 plus mx plus m2. Hein, d'accord, bon. Vous faites comme vous voulez. Bon, c'est ça la lecture. Mais là, vous voyez, la lecture, elle se fait en n'écrivant pas la quantification. La quantification, elle a quand même une fonction importante pour distinguer entre l'absorbant et le neutre.
Ma question, c'est vous écrivez quantification avec un K, est-ce qu'on doit y voir un sous-jacent?
Oui, c'est Lacan qui dit. La quantification avec un K, de Kant, pas de quanta. Ça se trouve dans la raison d'un échec.
D'accord, mais le contenu de ce
Kant? Ah ben, vous ne savez pas. Vous n'avez pas lu le séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant. Quand Lacan introduit les formules de sexuation, la première fois qu'il met au tableau les compteurs et le début des formules, il ne met pas encore tout à fait les formules, il est en train de les construire, il va faire ça pendant 3 ans, d'un discours qui ne serait pas du semblant, ou pire encore. Bon, après il passe aux deux. Première référence, qu'est-ce que c'est Saint Anselme? C'est l'histoire de Saint Anselme, voyons, de l'argument ontologique de l'existence de Dieu. C'est pour ça que pourquoi c'est important? Alors là, je fais une incise de nouveau, mais c'est très important, c'est très bien votre question. Regardez, c'est la même chose que Freud avec les Brentano, quand il voit négation, prédicat, canteur. Tout de suite, Freud, il écrit inconscient, principe du plaisir, principe de réalité. Bon, Safran écrit une très, très bonne étude sur cette question. Inconscient, principe du plaisir, principe de réalité, mais encore. Il est pris encore par le piège freudien de croire qu'il s'agit d'une observation phénoménologique d'un supposé plaisir, d'une supposée loi de Fechner dans l'organisme, enfin tout un appareil phénoménologique et expérimental qui ressemblerait à la neurologie, hein. Et ça fond, c'est très bien ce qu'il fait parce qu'il lui donne toute sa dimension philosophique. Il dit bien que le mot Vorstellung doit son succès à Brentano. Et qu'il s'agit d'intentionnalité. Là, ce que René Lève ne veut pas comprendre, parce que quand je lui dis, il croit que je me moque de lui, que je l'emmerde. Je lui dis gentiment, simplement depuis des années, son truc sur l'intentionnalité, il devrait lire le Safran, et que lui, il a fait avec Van Stellum, comme Firenze, ils se sont bagarrés là-dessus, comme Joël Dor, non pas Joël Dor, comme Michel Thor, qui avait écrit dans les cahiers pour l'analyse déjà. Un truc contre Lacan et le Vorstellung représentant. Tous ces gens qui veulent corriger Lacan, ils oublient seulement une chose, c'est qu'il ferait mieux de regarder dans leur soupe. D'abord.
Le Safran, c'est lequel?
Alors le Safran, c'est au-delà. Non, c'est l'échec du principe du plaisir. Mais le deuxième chapitre et le troisième chapitre, mais tout le bouquin est formidable. Dès le deuxième chapitre, il annonce la couleur. Les théories sexuelles infantiles des enfants, c'est un processus critique au sens de Kant. Hein? Et ça aboutit au fondement universel d'une loi universelle, d'un impératif catégorique, sado-kantien, qui s'appelle fantasme. Le fantasme, qu'est-ce que c'est un axiome. C'est un principe universel pour le sujet. C'est un principe universel pour un sujet singulier. D'accord, ça peut paraître ridicule, mais pour lui, ça marche comme ça. Le sujet, il est tenu à son fantasme. Qui va constituer au moment du déclin de l'Oedipe, mais il aura cette valeur de fantasme parce que, comme le montre Freud dans le cas Schreber, on peut décliner les symptômes du fantasme, à partir du fantasme. Et c'est une déclinaison logique, hein, c'est une déduction. Avec des canteurs comme ça, il y a une phrase qu'on décline et puis il y a tout un appareil logique qui l'accompagne. Par exemple, dans le cas Schreber, Freud utilise la négation. C'est toutes les manières de nier le fantasme homosexuel. Ça vaut ce que ça vaut, le fantasme homosexuel. Je vous dis, la forfusion, c'est bien mieux pour parler de la psychose. Et Lacan va nous entraîner dans une autre conception de la psychose et un autre traitement de la psychose. Et le traitement de la psychose que nous propose Lacan, c'est ça. Enfin, plus exactement, c'est ce que je vous propose de faire. Le traitement de la psychose, c'est quand vous avez un nœud propre, Lacan le dit, la psychose, c'est un nœud propre. Comme le trèfle, il dit c'est le trèfle, mise en continuité de l'imaginaire, le réel et le symbolique. Quand vous avez un sujet qui a un nœud trèfle, il ne peut pas lire, il ne sait pas lire avec ce nœud trèfle. Il y a la partie A qui est abolie, qui est détruite. Et du coup, le traitement de la psychose consiste à reconstituer la chaîne. Et vous voyez pourquoi je m'intéresse à ces chaînes, parce que ces chaînes, elles concernent des nœuds propres qui sont les deux premiers nœuds propres qui ne sont pas dans la série des nœuds propres les plus réguliers. Bon. Donc ça, moi je suis sur la piste ici d'une méthode de lecture comme traitement de la psychose. Et ça intéresse les analysants, ça intéresse pas les analystes. C'est pas l'analyste qui va faire cette lecture, hein. C'est l'analysant qui doit, au lieu de faire un délire psychotique et à construire un objet, comme dit Abraham, et choquer sur l'objet, n'est-ce pas, qui serait une ombre de l'objet, il s'agit de construire l'objet, hein. C'est-à-dire reconstruire l'objet qui est détruit dans la chaîne pour donner le nœud trèfle, le nœud propre du délire. Bon. Et moi, je prétends que Lacan prend l'exemple du trèfle et du borroméen parce que il faut bien qu'il insiste sur des choses extrêmement basiques pour qu'on puisse un jour comprendre. Son auditoire n'y a rien vu, hein. Moi, même à l'époque, je n'entendais rien du tout. je me suis aperçu qu'il parlait de la psychose barnéaire comme de traite. Bon, je l'ai même écrit, repris dans l'énumération, enfin la présentation que je fais dans Nœuds, chapitre 7. Je présente les nœuds, l'enlacement pour la névrose. Bon. Mais je prétends que c'est un exercice de lecture. Hein. Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas d'algorithme pour traiter la psychose. Il faut recomposer la chaîne qui va être un apprentissage de la lecture. Recomposer la chaîne, c'est déjà de la lecture et c'est un apprentissage de la lecture. Et je vous dis, on s'est tous posé la question, est-ce qu'on n'était pas psychotique? Bien sûr qu'on est tous psychotiques. En tant que névrosé et pervers, de toute façon, ça non plus, ça ne se guérit pas. C'est très bien la névrose et la perversion. Regardez Lacan dit dans Savoir du psychiatre, il dit la névrose, regardez, c'est vachement bien la névrose, ça assure l'ordre public. Alors, regardez, donc, nous on est dirigé par un préfet de police maintenant comme président, alors d'accord, comme dans les balcons de Jean Genet, mais tout le monde n'est pas obligé d'être préfet de police. Mais enfin bon, la police, elle aime bien la névrose. Vous voyez, aujourd'hui on a mis la névrose plus la télévision, alors tout le monde reste chez soi. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'était le quartier latin du temps des ciné-clubs, il n'y avait pas la télé encore.
Là, c'est le Champeau.
Ouais, le Champeau, bon, ben, tout ça c'était quand même plus animé. C'est plus animé encore dans certains quartiers de Buenos Aires comme ça. Dans Paris, vous pouvez chercher, il y a des endroits où c'est encore animé, heureusement. Il y a des gens qui sortent un peu de leur phobie familiale, familialiste. Bon. Mais la télé, ça augmente encore plus. Enfin, la télé couleur, surtout, ça a été terrible. C'était un bonheur pour la phobie. Hein. Mais ça n'empêche pas le développement de la drogue. C'est de la phobie tout ça, hein, toutes les addictions. Et puis, abaissement de la bandoulière, c'est de la phobie, quand on sent dans le corps le désir. Bon. Donc le point, il est la psychose, la névrose et la perversion, ça s'analyse. Moi, je pense que justement, l'analyse doit conduire à ne pas être fou, c'est-à-dire ne pas abuser du pouvoir qu'on peut avoir pour imposer sa névrose et sa perversion aux autres. Il faut faire ça avec des adultes consentants. C'est vrai pour la névrose comme pour la perversion. Comme on dit, il faut mieux faire ça avec des adultes consentants. Si vous trouvez un bon copain ou une bonne copine qui est d'accord pour faire névrose, névrotico-pervers avec vous, ben, vous faites ça. Ça s'appelle une famille, on va au lit aussi, on peut aller dans la salle de bain, dans la cuisine. L'endroit où ça se passe, c'est très important. On peut faire plein de choses, même. Hein. La névrose obsessionnelle, ça se passe dans les chiottes. La névrose phobique, ça se passe dans la cuisine. Bon, les anorexies, tous ces trucs-là, c'est terrible. L'anorexie, c'est une addiction de l'ensemble vide de Cantor. Hein. La première Colette Solaire, c'est Cantor qui est psychotique. Mais les pauvres gamines qui deviennent psychotiques, elles sont déjà une belle phobie qui sert de délire psychotique. C'est ça, l'anorexie. Ça fait des gens qui meurent. Hein. Donc, moi, je finis juste pour dire... combien je pense du bien des gens formés par M. Le Meunier, c'est sa meilleure élève, son élève la plus brillante. Il avait même mis à table pour conclure le colloque de l'école troisième qui s'appelait le Mathème. Hein. Il y avait Lacan qui a parlé, il y avait la petite madame collège, qui était toute étudiante de l'école normale, qui sortait là toute fraîche. Bon, tous ces gens-là, elle dit l'inconscient, le délire psychotique inconscient à ciel ouvert. Je vous dis, c'est sûr que le délire inconscient, le délire dans la psychose, je vous dis, c'est un acting out, c'est du transfert, c'est un transfert massif. Mais, alors c'est quand le transfert devient, c'est quand l'acting out devient massif, que ça se voit beaucoup, que ça nous fait des fous, disons, de la psychopathologie somptueux, quoi, c'est spectaculaire, ça peut être spectaculaire. Bon, il va se fixer là-dedans. En général, on l'aide beaucoup, hein, à l'aide de médicaments et puis de papiers administratifs. Bon, alors, la différence, c'est que ces gens-là ne peuvent pas imaginer que l'inconscient suppose qu'on le lise. Un délire, un transfert, un délire, une psychose, un acting out, hein, gentil comme celui du mec qui va manger la cervelle fraîche, ou un peu plus fort que ceux qui veulent prouver aux psychanalystes qu'ils se trompent. Ça me fait toujours rire. Et alors, il y a ceux qui veulent corriger Lacan. C'est pour ça que je dis à René, on n'est pas obligé de faire du Michel Thor. Moi, je trouve que c'est dommage que il s'use la santé à faire du Michel Thor. Michel Thor qui est un type qui n'a rien à foutre de la psychanalyse. Hein. Puisque Saradel lui a proposé de bouffer avec moi, il a dit, ah non, non, moi c'est le Vapro, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas moi qui suis fou. Moi je mange même avec les gens que je considère comme des cons. J'ai pas peur que ça me saute dessus, d'avoir d'attraper la vérole, c'est quand même extraordinaire. Lui, il veut même pas bouffer avec moi. Vous voyez comme quoi je dois être vachement, vachement infectieux, hein. Peut-être que quand je suis postillonne, on attrape la topologie ou la psychanalyse. Bon. Alors oui, qu'est-ce que vous voulez?
Non, je ne veux rien dire de méchant. Je veux dire que j'ai essayé, manu militari, volontariste comme tout, de trouver votre texte sur Psychomundo, sur la phobie, parce que vous faites allusion et que ça m'a l'air assez fondamental.
Oui, et ils vous ont demandé une clé?
J'ai mis 10 fois ma clé, mais vous ne votez pas,
mais
tout
vous
ça.
Ont demandé, mais ils vous ont demandé une clé spéciale, il faut prendre un abonnement, en fait.
C'est
moi, ils m'ont donné une clé, moi je peux y accéder avec la clé. Alors, il faut que je la retrouve, et si je la retrouve, vous m'envoyez un email, je vais essayer de la retrouver. Psicomundo, c'est un site argentin, mais qui est sur Internet, donc c'est pas argentin, c'est international. C'est en espagnol. Et dans ce Psicomundo, vous avez une revue qui s'appelle Forda, et qui est intitulée Psychanalyse avec des enfants. C'est pas psychanalyse d'enfants, mais psychanalyse avec des enfants. Et ces gens-là avaient publié déjà une interview de moi quand je suis arrivé en Argentine il y a pas mal d'années. Et ils m'adorent, comme beaucoup de gens. Heureusement, c'est pas le cas des pontes de la psychanalyse, mais il y a des tas de gens qui n'ont pas de pouvoir ni eux-mêmes. Alors, et eux, ils m'adorent, ils sont ravis de mon article, qui est une espèce de roman familialiste, pour donner raison à Deleuze. C'est un théâtre du terrorisme, et ça s'appelle Le territoire de la phobie, et dans lequel je commente le fait. Je mettrai plus de graphes, mais j'ai mis juste 2 petits dessins, un arbre et un cycle pour l'instant. Donc il n'y a pas tellement de topologie mathématique, il n'y a pas de risque de s'emmerder. C'est plutôt raconté, en espagnol. Bon. Et puis il faut que je le mette sur la page, n'est-ce pas? Parce que je l'ai écrit en français, bon, ça a été traduit par ma chère femme. J'ai pas vérifié la traduction, alors ce serait aussi bien que vous le lisiez en français, parce que la traduction espagnole, après tout... J'en sais rien de ce qu'elle a raconté, elle, parce qu'elle adore me faire parler. Alors, moi, je veux bien qu'elle me dise. Ma mère était déjà comme ça, il faudrait que j'avais des otites. Vous savez, quand la mère veut faire parler les enfants, ça fait des otites terribles. Ils peuvent avoir du cérumen jusqu'à 40 ans, hein, les gamins. Les mères, c'est terrible. Bon.
Je crois que c'était pour pas les entendre.
Non, c'est pas pour pas les entendre, c'est parce qu'elles ne veulent pas les laisser parler. Alors, elles parlent à la place. Résultat, si vous voulez, c'est peut-être un peu pareil, mais ça fait double emploi avec la droite infinie, avec le parasitage du corps par la parole, depuis le trauma, plus la mère qui fait parole imposée. Vous savez, la maman qui dit au docteur ou au professeur, moi, ma mère, elle est comme ça, vous savez, moi, j'ai fait des études grâce au fait que ma mère pleurait, savait très très bien pleurer dans le bureau du censeur. Elle dit, je suis une femme seule, mon mari m'a quitté, je les élève seule, j'élève 3 enfants toutes seules. Le type, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il pleurait aussi. Ce genre de bonne femme, vous savez, dans l'enseignement, mais on en trouve partout. Bon. Et seulement le problème, c'est que vous voyez, j'étais quand même très mal en point, au bout du compte. Et donc, elle pouvait pas me sauver. Elle m'aimait tellement qu'elle ne pouvait pas me sauver. Heureusement que Lacan, un jour, j'ai rencontré Lacan. Moi, j'ai survécu grâce à la psychanalyse, vous ne pouvez pas savoir. Ma mère a fini par me dire, depuis que tu as rencontré ce Lacan, tu n'es plus le même. Je ne t'en connais plus. J'ai dit, ah oui? Ben oui, justement, tiens. Bon, non mais, il faut se rendre compte de ce que c'est que la psychose depuis l'enfance. Bon. Alors, c'est même pour ça que je porte des chapeaux. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Non, je vous raconte l'histoire déjà de cette connerie-là, c'est déjà vachement intéressant. Hein, c'est pour bon. Alors, donc, vous parlez, vous voyez que l'histoire de l'écriture, hein, Freud, il saute dessus quand il voit Brentano exposer qu'il y a des nouveautés dans l'écriture logique. Et tout de suite, il voit le profit que ça peut avoir pour la psychanalyse, c'est un moyen d'écriture qui lui permet d'écrire d'écrire des choses pour ses auditeurs, ses lecteurs, c'est pas des auditeurs, c'est des lecteurs, c'est Lacan qui a des auditeurs, Freud qui a des lecteurs, tout de suite il peut écrire des choses qui vont être une mise au point, qui vont énormément éclairer le débat si vous vous fiez à la négation telle qu'il le commande comme label de l'inconscient, et puis le prédicat et le compteur d'existence, les deux sont nécessaires, mais il faut d'abord qu'il y ait un compteur, il faut d'abord qu'il y ait un prédicat, un jugement d'attribution, puis ensuite qu'on quantifie l'existence. Bon. Alors l'existence, justement, ben, c'est Saint-Anselme. Qu'est-ce que c'est l'argument ontologique de Saint-Anselme? C'est dire, c'est pour ça que Lacan prend un cas. On revient sur le Kanteur. Mais Kanteur avec un cas. Kanteur, le Kant. Moi, je maintiens dans tout le traité de logique que je veux écrire pour les lecteurs de Lacan et Freud, le Kanteur sera toujours Kanteur avec un cas. Mais je vous explique pourquoi. C'est Lacan, lisez-le dans le discours, d'un discours qui ne serait pas du semblant. Ou pire, encore. C'est que c'est quand même, c'est aussi important que Freud, ce truc. C'est que Kant, lui, il est le premier dans l'histoire de la philosophie à avoir émis un doute sur l'argument ontologique de Saint-Anselme, qui dit, l'argument, il dit, voilà, Dieu, on va dire un certain nombre de prédicats, comme par exemple Dieu existe, si c'est un prédicat. Ben, c'est un prédicat qui ne peut pas faire défaut à Dieu, parce que Dieu, il vérifie, il est satisfait. Vous voyez, ça ne doit pas faire un milliard, il ne satisfait pas toute la puissance. Il satisfait la fonction, il satisfait toutes les fonctions de Dieu. Donc, il ne peut pas ne pas satisfaire la fonction exister. Ça, c'est l'argument de Saint-Anselme. Et Kant est le premier à avoir émis un doute sur cette question en disant « Mais Saint-Anselme, c'est pas un argument suffisant parce que l'existence n'est pas un prédicat. » Il n'a pas dit « C'est un Kanteur, inconscient. » Il a dit « C'est pas un prédicat. » C'est génial, ça veut dire ça confirme ce que je dis de l'inconscient et de l'intuition et de ce qui commence avec le trauma. Le sujet a des intuitions, il ne sait pas d'où ça vient et il passe toute sa vie à chercher à les écrire bien. Et Kant, il a eu un et pourquoi ça confirme toute cette histoire, ce que je vous dis, de l'écriture et de l'inconscient et de la psychanalyse, alors que je suis bien de l'avis que la parole c'est extrêmement important, mais qu'il faut faire la différence, il faut traiter les deux, c'est que Kant, il dit une chose, on ne sait pas d'où ça lui vient, moi je ne cherche pas à le savoir, je constate simplement que Kant, il dit un truc qui est confirmé et hyper confirmé. Alors Madame Claude Imbert, elle peut dire tout ce qu'elle veut comme connerie sur le fait que la logique moderne, la logique mathématique, c'est pas bien, qu'elle préfère les histoires de touche pipi des stoïciens et de Daphnis et Chloé et tout ça. Bon, moi je veux bien, mais moi je ne sais rien contre la littérature, hein, vous n'allez pas me faire passer pour quelqu'un qui pense qu'il n'y a que les mathématiques. Bon, mais seulement, il y a tout de même des principes d'écriture différents, parce que les religions, ça apparaît, c'est des sciences archaïques qui apparaissent avec l'écriture. Et quand l'écriture apparaît, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Des religions, c'est-à-dire des conceptions du monde. Et ensuite, on projette ces conceptions du monde sur les sauvages en croyant que les mythes, c'est aussi des mythes sur l'origine. Et puis, je trouve ça montrer que ça n'a rien à faire, ni avec le sens, ni avec l'origine, ni avec la conception du monde. C'est à lire, que c'est des moyens mnémotechniques, les mythes. C'est quand même génial. Donc, vous voyez, pourquoi je suis quand même un peu énervé par ces profs de philo qui veulent nous faire croire quoi? Bon, qu'il y ait une logique philosophique et une logique mathématique, c'est pas la même. C'est des gens qui nient ce que j'appellerais la progression. Le progrès au sens de progresser. Le seul discours progressiste que je connaisse, à l'heure actuelle, Lacan dit, c'est le discours de Freud. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un progrès dans l'écriture. Freud, il progresse dans l'écriture. Et le coup de la négation, c'est tout à fait remarquable. Et bien, quand il progresse dans l'écriture, il dit, il commence à émettre un doute, l'existence n'est pas un prédicat. Et ça va être Frege, Peirce et tout ce qu'on va faire depuis qui va confirmer ça, c'est qu'ils vont effectivement arriver à constituer un système d'écriture, pas une conception du monde, c'est un système d'écriture. Ça marche très bien pour écrire une bonne partie des mathématiques classiques. Mais qu'est-ce qui se révèle? Il se révèle que l'existence avec l'universel, c'est les deux canteurs. Ça fait partie, l'existence fait partie de la quantification. C'est confirmé par la construction de la logique moderne. Quand la logique moderne arrive à exploser, après Hegel, hein, après Marx, Freud, vous avez tout à coup, à la fin du 19e, vous avez Boole. Bon, Boole, c'est l'anglais, ça va virer un peu mécanique. Mais Frege et puis Peirce, c'est l'américain, ils vont, et on retient l'écriture du prédicat du cantor, on retient celle de Peirce. Hein, ça, c'est les deux. Peirce, puisque Frege, hein, le cantor universel, il l'écrivait comme ça, avec l'assertion X ici, et puis la formule, là, voyez-vous, A plus X égale I égale A. Quel que soit X, ça veut dire. Et c'est la même chose que ça. Bon. Et alors, il faut une négation et l'existentiel, hein, vous savez que l'existence, il existe X, P de X, c'est la négation d'un universel qui nie le prédicat. C'est ce qu'on appelle la dualité. Là, il y a deux négations, à deux places différentes, qui ne se confondent pas. Ça, c'est la définition de l'existentiel. Donc, l'existence est une quantification duale de l'universel. L'universel, c'est une non-existence que non. Quelque chose est universel, c'est parce qu'il n'y en a pas qui disent non. Hein, c'est pour ça que les formules de Lacan sont paraissent contradictoires là, du côté homme. Puisqu'il dit, lui, au contraire, qu'un universel se fonde d'une existence qui dit non. Eh bien oui, parce que si on prend seulement la définition logique de l'existentiel et de l'universel, c'est contradictoire ce que dit Lacan. Mais si on utilise ces quanteurs maintenant en théorie des ensembles pour écrire comment on fonde une classe universelle en théorie des ensembles, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il faut faire une autre théorie où on a l'axiome inverse, que là où il y avait quel que soit x phi de x, il va y avoir un inexiste, un x non phi de x, qui est contraire au tous x phi de x, puisqu'il y en a un qui dit non. Mais que c'est grâce à celui qui dit non qu'on peut fonder la classe universelle. Moi, je vous l'écris comme ça, regardez. Vous avez une théorie T avec un axiome qui dit ça, quel que soit x phi de x. Si vous avez un axiome, ou si vous avez un, ne serait-ce pas un axiome, si vous avez ici ne serait-ce qu'un théorème, une thèse, vous avez ici cette fonction-là, vous voyez, ce prédicat, on va l'appeler une classe universelle. Pourquoi elle est universelle? Parce qu'elle répond, elle est introduite par un quel que soit x phi de x, par un quel que soit x. Si vous avez n'importe quel prédicat qui copie dans un théorème et que ça s'écrit comme ça, vous pouvez le prédicat, vous pouvez l'appeler u de x. C'est une classe universelle. Et en théorie des ensembles, la classe universelle n'est jamais un ensemble pour la théorie en question. Une classe universelle dans une théorie ne peut pas être un ensemble de cette théorie des ensembles. Bon. À cause du paradoxe de Russell, à cause du coiffeur. Alors donc, mais par contre, Lacan, il dit, pour fonder cette théorie-là, il faut prendre une théorie où on a l'axiome inverse, non phi de x, vous voyez, et grâce à ça, grâce à cette existence, on va avoir un oméga, et on va pouvoir écrire des choses comme ça, quel que soit x, x appartient à oméga, est équivalent à phi de x. Donc dans cette théorie T, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez des énoncés comme cela, comme celui-là, que je vous souligne en bleu ou en vert. Vous voyez, je vous l'encadre en vert, voilà. Regardez, toute la théorie T, vous allez l'écrire comme ça. Tous les énoncés de la théorie T, vous allez les retrouver écrits comme ça. Ici, tous les énoncés de la théorie T, la classe phi, elle est universelle. Ici, la classe phi, c'est l'ensemble oméga. Donc on peut fonder comme un ensemble, une classe universelle, grâce à un axiome qui dit le contraire de ce qui caractérise la classe universelle. Ça s'appelle l'énoncé restreint. Chez Frege, chez Peirce, vous pouvez l'écrire comme ça, quel que soit x oméga phi de x. Ça veut dire que dans la théorie où il commence par un axiome qui nie l'énoncé, qui est l'axiome de la théorie qu'on cherche à modéliser, eh bien on peut modéliser cette théorie où il y a la classe universelle phi, hein, et oméga, c'est justement l'ensemble de cette théorie-là qui n'est pas dans celle-là. Bon. Alors, je vous donne tout de suite un exemple pour que vous arriviez à voir que c'est vraiment pas compliqué, mais qu'on n'a pas l'habitude de penser à ça, puis surtout, on n'a pas l'habitude de vouloir l'écrire, ni de chercher à l'écrire, et on ne sait pas le lire. Mais regardez, si je vous dis, par exemple, que je fais la théorie de tous les ensembles finis, bon, j'écris ça, regardez, quel que soit x est fini. Bon. Vous avez quoi? Je prends les axiomes de Peano, je prends les ordinaux de la théorie des ensembles d'Hermelo-Fraenkel. C'est la théorie des ordinaux. Les ordinaux, c'est 0, 0 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, c'est tout. C'est à partir de 0 tous les successeurs. D'accord ? Vous avez tous les nombres entiers. D'accord ? Il n'y a pas de plus grand nombre entier. Premier réel découvert par la science. Impossible d'écrire le plus grand nombre entier. Donc cet ensemble, il est infini, et moi je fais la théorie des ensembles finis. Je fais la théorie des nombres finis. Théorie des nombres F. Hein ? Ils sont tous finis, les nombres. Je ne peux pas construire l'ensemble des finis comme un ensemble de cette théorie, à cause de Russell. C'est un autre problème, mais je pourrais le montrer aussi. Donc je construis une théorie où il existe un ensemble non fini. Ben, c'est la théorie Zermelo-Frankel, la théorie la plus standard des ensembles. Ça veut dire qu'il existe un ensemble non fini. Vous pouvez lire ça, il existe un ensemble infini. Bon, cet ensemble infini, je l'appelle oméga, et je dis que tous ceux qui sont finis, tous les x qui sont finis, ils sont dans l'ensemble infini, et le fait d'être dans l'ensemble infini, c'est tous les ensembles finis qui sont dans l'ensemble infini, parce que l'ensemble infini, lui, il est infini en nombre, n'est-ce pas ? Ces éléments sont en nombre infini, mais tous ces éléments sont des nombres finis. Ça s'appelle Aleph 0, ce oméga. C'est pas plus compliqué que ça, les formules à succession côté homme. Mais c'est génial de le formuler comme ça. Parce que Lacan, hein, il a fait le parcours de définir l'universel à partir de Kant avec Sade comme l'universel se fonde, hein, d'être vrai pour tous, sinon pour aucun. Ça, c'est le diagramme de Peirce. Vous avez la privation. Aucun. Bon, hein, puisque Kant et Sade pris ensemble, ça aboutit au bien et au mal triomphant, devenant tous les deux universels. L'universalité du bien bourgeois ou impérialiste, si vous voulez,